La une du Journal de Québec ce matin, ça donne plutôt bien parce qu'on avait quand même prévu inviter notre invité avant même que cette nouvelle-là sorte à la une du journal parce que c'est quand même un événement qui s'est produit le 20 décembre dernier. Vous en avez probablement entendu parler juste à la veille du temps des fêtes comme ça. On dirait que ça ajoute un élément de tristesse, même si l'événement est triste très, très en soi. C'est une septuagénaire qui est décédée dans le stationnement de l'hôpital Chauveau. Elle avait demandé un transport ambulancier alors qu'elle commençait à démontrer des signes de faiblesse. Elle se sentait pas très bien. Et puis, bon, elle dit qu'elle avait mal au cou, elle avait du mal à tenir sa tête. Et au service d'ambulancier, au service 911, en fait, on lui a dit que ça peut aller jusqu'à 90 minutes avant qu'elle puisse obtenir un transport. Et finalement, c'est son gendre qui l'a amené lui-même à l'hôpital parce qu'il voyait bien que ça allait pas du tout, du tout. Sur les conseils d'une infirmière, eux, ils avaient l'intention de se rendre à l'hôpital Laval, mais se sont rendus plutôt à l'urgence de Chauveau, qui était située plus près de chez eux, parce que l'infirmière leur avait carrément dit, vous vous rendrez pas à l'hôpital Laval. Allez directement à Chauveau, c'est important. Et finalement, c'est dans le stationnement de l'hôpital Chauveau qu'elle est décédée. Évidemment, c'est probablement une mort qui aurait pu être évitée si les ambulanciers étaient arrivés plus tôt pour la simple et bonne raison qu'ils ont l'équipement nécessaire pour agir directement sur le fait. Tandis que le gendre, malgré toute la bonne volonté qu'il avait, c'était seulement une fois rendue à l'hôpital qu'elle aurait pu avoir les soins qu'elle devait avoir pour avoir la vie sauve, tandis que les ambulanciers ont l'équipement pour agir directement tout de suite. On a beaucoup blâmé les ambulanciers là-dedans parce que c'est pas la première fois qu'on entend une histoire d'ambulance qui n'est pas nécessairement disponible ou les délais sont très, très longs. Là, ça a amené à une mort, évidemment. Mais des histoires comme ça, il y en a assez souvent. Et c'est souvent les ambulanciers qu'on blâme là-dedans. Comment ça se fait qu'il n'y a, en fait, pas les personnes ambulanciers, mais le service ambulancier? Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de véhicules sur la route? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de répartir un petit peu mieux? Comment ça se fait? Il y a plein de questions comme ça qui se posent. Pour répondre à ces questions-là, on va aller parler à Frédéric Maheu. Il est président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. Monsieur Maheu, bon matin.
Bon matin.
Monsieur Maheu, vous êtes prononcé spécifiquement sur ce cas-là dans le journal ce matin et vous êtes assez d'accord avec les conclusions de la famille qui disent probablement que la mort aurait pu être évitée si les ambulanciers étaient arrivés plus tôt.
Ben effectivement, les chances de survie de cette dame-là auraient été multipliées là, de beaucoup si on avait été affecté immédiatement à cet appel-là, qu'on serait arrivé 10-15 minutes après, là, on aurait pu faire nos tests. Et vu la personne... Puis ça rentre à l'hôpital, là. Écoutez, aux alentours d'une heure, 1h20, 1h30, on a été à l'hôpital. Possiblement que cette dame-là a reçu les soins nécessaires là, avant de décéder. Là.
Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne un transport ambulancier du début à la fin? Parce qu'on a l'impression, lorsqu'on ne connaît pas tellement ça, que l'ambulance est appelée à aller sur les lieux, elle se rend, prend le patient, arrive à l'urgence, droppe le patient à l'urgence et après ça, elle s'en va directement sur la route. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Pouvez-vous nous expliquer le processus du début jusqu'à l'appel, jusqu'à la fin finalement?
Ben, en premier, les gens appellent le 911. Donc, à la centrale 911, il y a deux personnes. Il y a une personne qui répond à l'appel des gens. C'est là où ils ont des questions à poser. Puis suite à ces questions-là, ils vont donner un code de priorité. Donc, soit 1, 3, 4 et 7. Le 1 le plus important, dans l'âge jusqu'à 7, ou qui est le moins important, le moins urgent. Et après ça, va transférer ça à son collègue qui, lui, va gérer la flotte ambulancière. Donc, on parle pour le secteur de la Ville de Québec. Donc, lui, va gérer la Ville de Québec. Il va avoir toutes les ambulances qui sont disponibles, les ambulances qui sont en train de faire d'autres appels, qui sont dans les centres hospitaliers. Puis, lui, va trouver l'ambulance la plus proche. Il va l'affecter à l'appel. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, on le reçoit dans le véhicule, puis qu'on peut partir pour aller faire l'appel. Donc, mais il faut qu'il y ait des ambulances disponibles pour les affecter. Présentement, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement d'appels qu'il n'y a aucune ambulance de disponible. On est tous déjà sur d'autres appels, ou à l'hôpital. Fait que là, à ce moment-là, c'est là qu'ils essaient de faire sortir des ambulances plus vite des hôpitaux, donc de se dépêcher à laver nos équipements, de dépêcher de faire nos papiers ou de pas faire nos rapports, de les faire plus tard. Ça, ce qui va importer aussi de dire, ben, de prendre des ambulances qui sont des paramédics qui sont en train de manger, des paramédics qui sont retournés à la caserne parce qu'ils vont finir leur call de travail. Puis ça veut dire, finalement, vous ne finirez pas votre call de travail, on vous donne un autre appel parce qu'il y a trop d'appels en attente. Donc, un peu ce qui s'est passé, là, pour la dame qu'on parle dans le journal aujourd'hui, c'est que cette dame-là, il y avait tellement d'appels, elle a été classée de non urgent au départ, mais cette dame-là a pas eu d'ambulance. Il n'y a aucune ambulance qui était capable d'y aller. Pourtant, dans une période un peu on va aller à l'été où c'est plus tranquille un peu, cette dame-là, elle a même si elle a été classée moins d'urgence, cette dame-là, elle a une ambulance là, dans les 15-20 minutes après, là, tout de suite. Là.
Mais quand vous dites que les ambulances sont occupées ailleurs, sont occupées avec d'autres personnes, est-ce qu'ils sont occupés sur la route à transporter les personnes ou ils sont occupés à l'urgence? Parce que je sais, est-ce que ça fonctionne vraiment que vous arrivez à l'urgence, vous donnez le patient à la première infirmière que vous voyez, puis après ça, vous quittez tout de suite ou vous devez attendre là un certain temps?
C'est un peu des deux. Il y a de plus en plus d'appels. Donc, normalement, on est équipé pour... Il y a des ambulances sur la route pour rouler à environ à 300-350 appels, plus 300 appels. Puis, de ce temps-ci, on roule à 400 appels par jour minimum. Donc, il faut vraiment qu'il y a déjà de plus en plus d'appels. Fait que oui, les paramédics sont déjà sur les appels. Puis oui, on le voit partout, les urgences débordent. Donc, à ce moment-là, c'est ça. S'il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'infirmière pour s'occuper de mon patient, le patient, en attendant, va rester sous ma civière. Donc, au lieu de prendre une demi-heure de temps à l'hôpital, 45 minutes de temps à l'hôpital, mais maintenant, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps à l'hôpital là, pour attendre avant d'avoir une civière de libre pour notre patient. Donc, c'est ça, certain que les ambulances qui sont prises dans les hôpitaux ne sont pas sur la route pour faire des appels.
Fait que vous devez rester
à l'augmentation d'appels.
Fait que vous devez rester à l'hôpital jusqu'à ce que votre patient soit pris en charge par quelqu'un là-bas, c'est ça?
Exactement.
Puis ça, ça peut être très long.
Oui, très long.
Fait que dans le fond, c'est comme une espèce d'effet domino. Là. Si ça bloque en haut de la pyramide, c'est sûr en bas de la pyramide qu'ils vont en écoper. Là. Vous devez attendre à l'urgence et puis vous pouvez être là combien de temps, mettons, pour un seul patient?
Ça va dépendre des hôpitaux, ça va dépendre du cas de notre patient. Donc, ça peut aller très vite comme ça peut prendre. On a déjà vu du 3 heures.
Hey! 3 heures? L'ambulance est pognée à l'hôpital, à l'urgence, pendant 3 heures sans pouvoir aller ailleurs?
Effectivement. Imaginez, en plus d'avoir une augmentation des appels, il y a moins de véhicules sur la route parce qu'ils sont pris dans les urgences.
Vous parlez de 400 appels par jour. Pour combien d'ambulances sur le territoire?
Pour la compagnie à Québec, il y a 2 compagnies, mais pour ma compagnie, nous, il y a 39 départs par jour. Sur une période de 24 heures, il y a 39 véhicules qui partent. Dont 2 qui sont attitrés seulement pour les transferts interhospitaliers. Mm-hmm. Par contre, il y a tellement d'appels que ces deux camions-là ne font pas de transfert. Ils vont faire des appels d'urgence parce que les autres véhicules sont débordés.
Puis donc, vous dites qu'il y a une autre compagnie, il y a combien l'autre compagnie a combien de véhicules?
L'autre compagnie, de mémoire, d'après moi, il doit avoir peut-être une dizaine de départs par jour maximum. Là.
Okay.
Fait que ça met environ 50 peut-être d'ambulances par jour pour la ville de Québec. Vous comprendrez avec le nombre d'appels qu'on a présentement, puis en plus de ceux qui sont pris, là, ça en prendrait beaucoup plus. Là. L'année passée, on est sorti dans les journaux, on parlait qu'il y a un manque d'ambulances énorme. En janvier, ils nous ont donné raison, donc ils nous ont octroyé énormément d'ajouts d'heures pour les ambulances. C'était à peine. C'est le double qu'il nous aurait fallu présentement pour souffrir à la demande parce que là, ça suffit pas. Et pourtant, chez nous, on a des camions, il y en a dans le garage. Il y a des camions qui attendent, il y a des gens qui sont sur une liste de rappel, qui attendent de faire leurs heures, c'est des paramédics qui sont chez eux, qui attendent juste qu'on les appelle pour travailler, puis ils attendent. Et malheureusement, les ajouts se font pas ou se font très peu, là, puis en retard.
Là. Alors, il y a des véhicules qui roulent pas.
Exactement. Il y en a qui attendent. Il y a des gens qui font pas leurs heures. C'est juste une question de sous pour les mettre sur la route.
Mais est-ce que le problème, mais M. Maheu, est-ce que le problème est réellement dans le nombre de véhicules sur la route ou le problème n'est pas plutôt rendu à l'urgence? Parce que pour moi, c'est inconcevable et pas normal qu'une voiture ambulancière soit pognée 3 heures en attente à l'urgence pendant qu'elle aurait pu répondre à 30 autres appels pendant ce temps-là. Est-ce que le problème n'est pas dans la gestion rendue à l'urgence?
Il y a beaucoup de choses à revoir, effectivement. L'urgence en est une. Par contre, nous, on n'a pas accès à l'urgence. Ça va être le CIUS avec le CHU qui va régler ce problème-là. Mais c'est un problème qui dure depuis plusieurs années et qui vient pas à bout d'être réglé. Donc, faut vivre avec cette conséquence-là maintenant. Faut l'en prendre en compte. Mais oui, il y a des choses à régler. C'est pas seulement un ajout, ça faut être clair. C'est pas seulement ça. Par contre, l'ajout d'ambulance en fait partie de la solution. Il y a d'autres solutions. Nous, on a, avec la dernière convention collective qu'on a eue, on a réussi à avoir une lettre pour s'entendre avec l'employeur pour pouvoir travailler sur le problème de la surcharge de travail des paramédics. Il y a des solutions qui s'en viennent à long terme. Mais là, on faut travailler sur le court terme en attendant pour pallier au manque qu'il y a présentement. Et c'est les ajouts présentement par jour qu'il va pallier au manque d'effectifs ambulanciers. Mais oui, il y a d'autres solutions à long terme dont les urgences qu'il faut régler, c'est sûr, certain, mais ça, ça appartient au CHU de Québec et à Laval et au CIUSSS.
C'est ça, c'est peut-être pas vous qui va pouvoir régler cette situation-là, mais on expliquait très bien avec un médecin avec qui on a parlé au 93 qui manque de lits, donc ça vous impacte aussi. Mais M. Maheu, il manque pas une certaine dose d'éducation pour certaines personnes qui appellent un ambulancier ou une ambulance pour des raisons, par exemple, qui ne devraient pas être ça. Est-ce que vous en voyez beaucoup sur le terrain des gens qui, malheureusement, devraient aller dans d'autres endroits pour se faire soigner?
Il y en a un peu. Je veux dire que c'est assez minime, là, en règle générale. C'est pas tous les gens qui sont qui vont mourir, qui vont nous appeler. On s'entend là-dessus, c'est sûr et certain. Mais la plupart des gens qui nous appellent ont besoin d'une ambulance ou du moins ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Ça peut être une personne âgée qui est toute seule, qui n'est pas capable de marcher, qui veut prendre un lit pour aller à l'hôpital parce qu'elles sont trop faibles. Pour comprendre que des personnes âgées, il y en a de plus en plus, la population vieillissante, et ces gens-là, quand ils sont malades, ils sont vraiment malades. Le système est déjà affaibli normalement. En plus d'être malade, ils sont déjà plus faibles. Donc, la difficulté à marcher, ça devient plus difficile de se rendre juste à l'auto-taxi, ça peut être difficile. C'est quelqu'un qui fait de l'hypothermie, qui fait de la température, il devient très, très faible. Donc, c'est pas tous les gens qui sont en danger de mort. Par contre, on a besoin d'aller à l'hôpital. Oui, il y a une éducation à faire. Par contre, on essaie de nous regarder les cliniques ou peu importe. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de place. La seule solution qui leur reste, c'est aller à l'urgence.
Ils ont besoin
d'un médecin. Ils ont besoin de prescription de quelque chose. Ils ont besoin d'être vus par un médecin.
Pour ça, on le comprend. Mais il y a des histoires qui circulent comme quoi il y en a aussi des ambulanciers qui connaissent très bien certaines adresses puis qui se disent « Ah, pas encore là pour rien ».
Ouais, mais c'est pas la majorité de nos appels. C'est très peu. C'est pas ces appels-là qui vont faire en sorte qu'il va désengorger le système. Okay. Fait que oui, ça arrive. On a tous vécu au travail que pourquoi cette personne-là n'a pas pris sa voiture pour y aller ou du moins la personne qui est à côté qui l'a pas amené à l'hôpital, ça on le comprend. Puis on le vit, on le voit, mais c'est vraiment là, c'est pas la majorité de nos appels. C'est très très peu. Là. Fait okay. que c'est pas le
Il y avait une légende urbaine. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, M. Maheu, mais il y avait plusieurs personnes qui disaient pendant longtemps que les gens commandaient un transport ambulancier ici à Québec, entre autres, pour se rendre au CHUL, pour finalement avoir un lift à Place Laurier pour aller magasiner. Ça, c'est-tu des choses que vous avez vues ou c'était des légendes urbaines?
C'est des choses qui se faisaient à l'époque, qui s'est faites il y a très, très longtemps, mais aujourd'hui, ça se fait plus parce que ces gens-là ils ont été répertoriés, ils ont été suivis aussi, et on connaît on va le dire comme ça, on connaît nos moineaux aussi.
Okay.
Maintenant, on sont suivis, sont surveillés là, dans les hôpitaux par les agents de sécurité ou les préposés, des choses comme ça. Fait que ça se fait plus là, vraiment d'aller au centre d'achat pour prendre l'ambulance parce qu'on est déjà surchargé. Fait que ces gens-là, ils seraient là, très, très, très vite par les paramédics pour niaiser avec eux autres. Là.
Et en terminant, M. Maheu, j'aimerais ça savoir comment ça fonctionne votre système de répartition pour savoir qu'est-ce qui est une urgence et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans le cas de Mme Elisette Deslauriers, qui malheureusement est décédée dans le stationnement de l'hôpital, lorsqu'elle a appelé, elle disait comme symptôme qu'elle se sentait faible, qu'elle avait mal au cou et qu'elle avait du mal à tenir sa tête. Évidemment, bon, c'est pas un appel qui dit quelqu'un a été disons, poignardé 50 fois à côté de moi. Là. Ça semble pas être ce niveau d'urgence-là. Mais par rapport à ces symptômes-là, pour vous, est-ce que ça reste une situation d'urgence, celle-là?
Je connais pas le protocole des gens qui travaillent au Nouveau-Forum, malheureusement. On appelle ça le code Clausen.
Okay.
Je le connais pas par cœur. Fait que je pourrais pas vous dire là, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a pas dit. Puis ça reste un triage téléphonique. Hein. Donc, on voit pas les gens, on voit pas les signes cliniques, on voit pas leurs signes vitaux. Donc, c'est vraiment un triage de base qui essaie de le moins échapper possible, excusez-moi l'expression, mais de sauver le plus de gens possible avec ce triage-là, de mettre le plus urgent possible. Par contre, ça arrive encore qu'il va n'échapper, il va laisser passer des gens qui connaissent pas trop leurs symptômes. Écoutez, une personne, les dames âgées, souvent c'est des dames, ne ressentiront pas la douleur nécessairement d'une crise cardiaque. Ils vont ressentir des crampes fatigues, des mal de cou, une difficulté à se bouger, une grande fatigue comme ça. Donc, c'est les signes, nous, on les connaît, ces signes-là, on est capable de les voir et de les reconnaître. Par contre, le téléphone, des fois, c'est le plus difficile. Puis les gens aussi, quand ils vont répondre, ne connaissent pas nécessairement la santé. Donc, ils sont capables de reconnaître ce signe-là comme mon Dieu, je fais une crise cardiaque. Non, ils ne comprendront pas ce qui va se passer, puis ils vont appeler. Puis ça va sembler bénin au téléphone. Par contre, lorsqu'on va les voir en vrai, ou à l'urgence, au triage à l'urgence, ou qu'on nous, les paramédics vont les voir, mais là, on va reconnaître, nous, les signes cliniques, puis les signes plutôt qui vont être associés à ça, puis on va pouvoir traiter en urgence. Là. Donc, les triages téléphoniques, ça reste un triage de base. C'est fait pour que ce soit urgent pour le plus de monde possible. Par contre, encore aujourd'hui, avec les appels en attente, le plus d'appels et des choses comme ça, ben on échappe encore malheureusement. Puis il arrive des cas comme ça qui est dramatique. Là.
Mais étant donné que bon, le triage téléphonique se fait vraiment au niveau du 911, est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, les ambulanciers, de vous rendre sur place puis de dire « Oh boy, ça aurait dû être classé pas mal plus urgent que ce que j'ai eu comme call, oui? »
Oui, effectivement, ça arrive assez fréquemment d'arriver là. Puis finalement, cette personne-là arrête d'être vue avant, ou des gens qui sont couchés au sol avec une fracture de la hanche, ou qui sont là à 2-3 heures de temps parce que il y a plus d'ambulance pour aller les sauver, puis ça a été classé pas moins urgent parce qu'elle est entourée des gens ou peu importe, là, mais ça arrive fréquemment qu'on arrive là, puis finalement, c'est pas du nombre d'urgence, ça c'est urgent comme appel. Oui, ça arrive.
Parfait. Merci beaucoup, M. Maheu, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Frédéric Maheu est président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. Je pense que c'est facile de mettre le blâme sur les ambulanciers lorsqu'une situation comme ça arrive, mais il faut penser beaucoup plus loin et beaucoup plus profond que ça. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans le système de santé, entre autres la façon dont les gens sont gérés une fois qu'ils sont rendus à l'urgence. Pour moi, une ambulance qui est stationnée pendant 3 heures de temps à l'urgence avec son patient, ça n'a pas de bon sens. 3 heures de temps, là, imaginez-vous le nombre d'appels auxquels tu aurais pu répondre pendant 3 heures si tu avais été sur la route à faire ta job. Pour moi, le travail d'ambulancier se termine au moment où tu arrives à l'urgence et tu es pris en charge par le système hospitalier. Alors, il y a beaucoup de choses à revoir là-dedans, puis il ne faut pas mettre le blâme sur les ambulanciers parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils font le maximum avec ce qui leur est donné comme outil et comme moyen aussi.
Si c'était éthique de le faire, je parierais beaucoup sur le nombre de personnels, infirmiers ou médecins dans certains hôpitaux qui voient des lignes assez longues, merci, de gens qui sont arrivés en ambulance, attendre, nous envoyer des photos. D'après moi, pour certains, ça leur trotte en tête. Mais c'est pas éthique, faites-le pas, mais au pire, brouiller les visages, peut-être que ça pourrait être intéressant.
Si vous avez des histoires, en tout cas, concernant votre expérience avec les ambulanciers ou le système hospitalier, écrivez-nous au 25-226. Est-ce que vous avez déjà appelé pour une ambulance et ça a pris très, très longtemps avant que cette ambulance-là arrive? Pour vous, c'était une situation qui était plus urgente que ce que ça avait été classé. On veut vous entendre, c'est certain. 25-226.